gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité abandonne le répertoire de l'art lyrique en 2008 pour se consacrer entièrement à la chanson. Il interprète Félix Leclerc dans un spectacle qu'il a présenté à plus de 200 reprises au Québec et ailleurs, avec entre autres l'Orchestre symphonique de Québec. Il a aussi été invité sur de nombreuses tribunes de prestige, notamment lors du Moulin à Parole en ouverture des Journées du Québec au Festival d'Angoulême et à de nombreux festivals au Québec, au Canada français, comme bien sûr également en Europe. Avec nous, Claude Michaud, pour nous parler de ses grandes aventures.
Quand même.
Mais bonjour d'abord.
Bonjour Armand.
Ça a été l'Europe pour vous, non seulement une révélation, mais un grand succès, faut-il le dire?
Oui, les spectateurs sont encore très, très, très friands de chansons. Ils sont connaisseurs de la chanson. Puis bon, écoutez, faut le dire aussi, ils sont quand même, 70 millions. Alors, sur le lot, il y a encore un certain nombre qui sont passionnés par la chanson.
Vous le dites avec une certaine tristesse, comme si ici, c'était plus difficile. Il faut le reconnaître.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile.
Absolument. Absolument. On est, bon, comme je le dis de temps à autre, le métier de troubadour, tel que je le conçois et tel que je le fais, ça existait il y a 4000 ans. Et si l'humanité est toujours vivante dans 4000 ans, ça existera toujours. C'est-à-dire quoi? Chanter la vie, chanter l'amour, chanter la mort, avec un minimum d'instrumentation. Et ça a toujours existé, ça existera toujours. Sauf que, bon, pour l'instant, c'est disons que on est un peu dans un creux de vague.
Mais pour en vivre, est-ce qu'il faut vraiment s'expatrier? Est-ce qu'on peut vivre avec sa guitare au Québec?
Non.
La réponse vient assez rapidement.
Non, on ne vit pas avec sa guitare au Québec. Faut avoir comme terrain de jeu la francophonie et puis les chants ailleurs.
Et j'imagine qu'on ne peut pas expliquer cela uniquement par le fait que nous ne sommes que 7 ou 8 millions. Est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a eu, on le sait fort bien, il y a 40 ou 50 ans, des boîtes à chansons qui ont fait connaître et qui ont révélé de très grands talents. On pense à de nombreux auteurs, compositeurs, interprètes, les Léveillés, Vigneault et compagnie sont passés par là. Pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne plus? Est-ce qu'on est... on n'a pas besoin de textes qui nous parlent? Est-ce qu'on est seulement dans le divertissement pur? Quelle analyse faites-vous, vous, de cela?
Ah, c'est vraiment pas...
C'est pas simple.
C'est pas simple à élucider ni à expliquer. Est-ce que c'est... tout est dans la vitesse, tout est dans l'immédiat. La plus grande qualité d'une pièce de musique, une chanson, on a l'impression que c'est sa nouveauté. Et on consomme extrêmement rapidement les chansons, comme le reste d'ailleurs.
Mais pourtant, quand vous vous retrouvez sur scène, dans des salles qui comportent peut-être un nombre restreint de spectateurs, mais qui sont tous là, les 40, 50 qui viennent vous écouter, sont avides de textes.
Oui, tout à fait.
Vous le sentez, ça?
Tout à fait. Et c'est un peu, en quelque part, la renaissance des boîtes à chansons. Est-ce que ça pourrait être une renaissance des boîtes à chansons? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On se retrouve un groupe, effectivement, de 50, 60, 100 personnes dans un lieu, et tout ce beau monde-là est absolument à l'écoute, 100% à l'écoute de corps et de cœur et d'esprit. Et c'est dans le même esprit, justement, que les festivals, les grands festivals de chansons en France sont organisés. Je pense à celui de Blanzat, celui de Barjac, où je suis allé l'an passé, qui était dirigé par, entre autres, à cette époque-là, par Geoffroy. Que vous avez reçu il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, c'est le plaisir est là, le plaisir de chanter, le plaisir d'échanger avec le public est
bien intensité sur scène aussi. Ce contact avec le public, quand on se retrouve dans une petite salle, c'est différent que de se retrouver avec un orchestre symphonique. Ce n'est pas le même plaisir, mais ce sont des plaisirs qui ne sont pas comparables, mais ils sont tout aussi intenses l'un et l'autre, ça j'en suis convaincu.
Oui, puis on est tous là pour ça, mais cela dit, en tout cas, en ce qui me concerne, chanter avec un grand orchestre ou chanter seul avec ma guitare, l'objectif est le même. L'objectif est parfaitement le même, c'est-à-dire de toucher et de transmettre le texte, de partager le texte et qu'il se passe quelque chose. Sinon, ben, j'ai d'autres cordes à mon arc, je ferai autre chose.
La différence est peut-être la même qu'entre le mot et la chose. Vous avez un beau texte.
Oh, le beau lien là, le beau lien.
Je vais vous laisser le temps de reprendre votre souffle.
Oui, je m'installe.
Pour nous livrer ce merveilleux texte.
Madame, quel est votre mot, et sur le mot, et sur la chose? On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Aussi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot, et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot, mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient bien peu de choses. Et je crois même, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot, alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut rien ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous pensez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Vous n'avez pas dit le mot, qu'on est déjà prêt à la chose. Quand je dis que le mot doit être mis avant la chose, il faut me croire à ce mot, très peu connaisseur en la chose. Eh bien, voilà quel est mon dernier mot, et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, je vous passerai la chose.
Oh là là! Faut-il en rire? Faut-il pleurer, dirait? C'est Ferrat qui disait cela ou...
C'est Ferrat.
Faut-il en rire? Faut-il pleurer?
Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. Non, vous avez tout à fait raison. C'est Ferrat.
Ah bon?
Ah ouais.
Il y a quelque chose de léger, de profond à la fois dans ce texte.
Moi je le trouve assez profond et assez démoralisant. Pas démoralisant parce que je vous l'ai dit, et pour moi il y a rien dans la chanson qui peut être démoralisant. Lorsque la beauté y est, moi ça me remonte.
La beauté et le sens. Sens comme on dit le sens d'un cours d'eau.
Oui, absolument. Il y a le sens.
Il y a une direction, là. Il y a vraiment...
Direction, mais il y a tout le côté esthétique, la manière dont ça a été tricoté.
Et la beauté avec laquelle vous le livrez aussi.
Il y a tout ça, évidemment. Mais c'est pour ça aussi que j'aime, moi, le trio, et j'aimerais que le faire revivre, le fameux trio auteur, compositeur et interprète. Parce que ça offre des opportunités d'être interprète que je dirais qu'on n'a pas lorsqu'on est auteur, compositeur, interprète.
Et c'est tout un symbole également, c'est la trilogie, c'est le triangle.
Exact.
C'est exact. La perfection.
Et moi, ça me permet de me glisser dans comme dans la peau d'un personnage à l'opéra ou au théâtre. Je suis pas sûr, moi, que Sarah Bernhardt ou Guy Nadon, ou bon, peu importe, serait meilleur s'ils avaient écrit leur scénario, leur pièce de théâtre.
Non, absolument pas.
C'est le plaisir de se glisser dans un personnage et complètement
ça devient une deuxième couleur. D'y trouver sa propre couleur.
Aussi. Oui, exactement. D'y trouver sa propre couleur et d'y donner également quelque chose de nous.
Alors là, on va vous demander de faire un peu de peinture, de peindre aussi cette chanson de Raymond Lévesque avec ce que vous êtes. Mm. Quand les hommes vivront d'amour, le temps de vous installer et on vous écoute.
Quand les hommes vivront d'amour, Raymond Lévesque. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, et nous nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise parti. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour. Dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Bravo, Claude. Interprétation bien différente, à l'image de ce que vous êtes probablement.
Oui, et en même temps, si j'ai bonne mémoire, bon, la magie de l'Internet aujourd'hui, on a rendu disponible la toute première interprétation de Raymond Lévesque, ça devait être en 55, 56, la guerre d'Algérie.
Le premier interprète de Quand les hommes vivront d'amour, vous savez qui c'était? Un comédien qui jouait dans des films de gangsters et qui a pris la chanson de Raymond en disant « Moi, je vais la porter, cette chanson. » C'était Teddy Constantine.
Oui, oui, ça me revient maintenant que vous m'en parlez.
Et Raymond Lévesque n'était pas connu. Il était assez balbutiement en France.
Ouais. Ouais,
et finalement, Eddie Constantine a cru en lui, en lui disant « Je suis capable de porter cette chanson ». Évidemment, la chanson avec Eddie Constantine n'a pas connu le succès qu'elle devait connaître, mais on sait qu'elle est devenue, cette chanson, qu'elle est devenue l'une des plus grandes de la francophonie.
En fait, vous savez peut-être qu'en l'an 2000, il y a eu un sondage dans toute la francophonie et cette chanson-là a été élue la plus belle chanson du 20e siècle.
Et on la chante toujours.
Et en plus, je m'en targue, je m'en vante lorsque je vais en Europe. Je chante souvent cette chanson-là en leur disant que...
C'est une chance pour un interprète de pouvoir chanter de telles chansons, n'est-ce pas?
Ah, absolument. J'ai toutes ces chansons qui sont là et puis je choisis celles qui me collent à la peau. celles qui me touchent, celles qui me font rire, qui me font pleurer. Et puis voilà, j'ai juste envie de partager ça avec avec les gens qui sont là, qui viennent pour partager ça avec moi.
En fait, Raymond Lévesque a laissé un héritage dans lequel on peut puiser quand on est chanteur, avec la qualité qui est la vôtre.
Oui.
Et de pouvoir disperser ce bonheur autour de soi.
Absolument. Et bon, puisqu'on amène le sujet, je déteste le terme, lorsqu'on parle du terme cover. Ah oui, tu chantes des covers. Ah, ça me tue. En fait, j'accepterai le terme cover lorsqu'on dira que Yannick Nézet-Séguin et Kent Nagano font eux aussi des covers. Mais pas avant. Parce que pourquoi la musique classique aurait ses lettres de noblesse et que ces grandes chansons-là, qui en fait, puis en plus, les chansons que je choisis, pour moi, dans ma tête, elles vont encore exister, elles vont perdurer. Elles vont nous perdurer, elles vont durer dans le temps. J'en suis absolument persuadé. Et puis, finalement, il est arrivé la même chose à Mozart. Hein. Pendant 50 ans, il n'y a pas eu une note de Mozart à partir de 1789, où il est mort, 1790, je ne me souviens plus. Il y a eu 50, 60 ans où il n'y a pas eu de Mozart. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, les boys,
mais come back.
Mozart, c'est formidable, il faut que ça vive. Alors, c'est un peu le travail que je fais.
Ouais. Un travail fort noble qui doit retrouver ses lettres de noblesse. Mais comme vous le disiez, malheureusement, la place dans la cité est plus restreinte qu'elle l'a déjà été.
Oui, mais bon, c'est pas plus mal de le partager avec le monde qui sont...
Il y a Marie-Josée Longchamp, la comédienne,
oui.
Celle qui jouait dans Rue des Pignons,
mm-hmm.
qui a repris un peu ses chansons de Raymond Lévesque, qui en a fait un spectacle.
Oui.
Et elle a fait un disque également où on a pu reprendre un extrait de l'origine de la chanson avec Raymond Lévesque. On entend sa voix. Et on parlait d'héritage. La chanson porte titre « L'héritage humain », Marie-Josée Longchamp et Raymond Lévesque, par la magie de la technologie.
Attends, écoute ça.
L'héritage humain nous vient de très loin, transmis de main en main. L'héritage humain est né de longs chemins, poli par l'effort quotidien.
C'est la somme de nos connaissances qui allégea le poids de l'existence. Que d'efforts, que de peines muettes pour la douceur d'une maisonnette.
L'héritage humain, c'est au temps lointain un homme qui avait faim. Et de son courage est né le labourage, ainsi s'écrivit dans les âges.
Le grand livre de nos connaissances qui allégea le poids de l'existence. Allez fort la peine de nos frères, joyons le nom pour le meilleur sur terre.
L'héritage humain, c'est encore demain ce que chacun de nous, de sa courte vie, aura fait sans bruit la main à la roue.
Car le monde, aussi grand qu'il soit, ami, c'est un peu de moi, c'est un peu de toi.
Ça fait toujours plaisir d'entendre ce Raymond Lévesque qui, malheureusement, à cause de sa surdité, a un grand problème d'élocution maintenant, mais qui est très sensible à ce que l'on fait de toutes ses chansons, parce que depuis quelques années, plusieurs interprètes, comme vous le disiez, ont repris des chansons de Raymond Lévesque et les refont, les font revivre à nouveau.
Mm-hmm.
Et vous êtes parmi ceux-là.
Oui, l'évêque. Puis bon, plusieurs d'ici, puis plusieurs également de l'autre côté de la Grande Mare. Entre autres, dans un nouveau spectacle dans lequel je ne chante que des chansons écrites par des femmes. Ça, c'est un défi d'interprète que je me suis donné. Donc, que des chansons qui ont été écrites par des femmes, et plusieurs de ces chansons-là ont été écrites pour être chantées par des femmes. Mais pour moi, ça ne fait pas de différence. Puis il n'y en a aucune de ces chansons-là qui a été masculinisée, si vous me permettez le terme.
Et le titre du spectacle, c'est un jeu de mots aussi. On parle d'elle, mais non pas A-I-L-E-S.
Oui, c'est ça, comme si j'avais des L. E-L-L-E-S, bien sûr. Et je ne suis accompagné sur scène que par des femmes dans ce spectacle-là qui va prendre justement son envol dans les prochains mois.
Là, on va vous permettre à nouveau de nous livrer un beau texte. C'est, je crois, une fable de La Fontaine.
Oui. Puis ça veut dire beaucoup pour moi. Lorsque j'ai commencé il y a 10 ans, parce que bon, ces temps-ci, je souligne mon 10e anniversaire de scène.
Bravo.
Merci. J'ai eu la chance de connaître et de me lier d'amitié avec un comédien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a fait justement les belles heures des téléthéâtres à Radio-Canada. Jean Dalmain.
Ah, bien sûr.
Ouais.
Le mari de Monique Lérac.
Le mari de Monique Lérac pendant de nombreuses années. Et Jean, qui a également participé à la fondation du TNM, à l'époque la Comédie canadienne. Et puis, en 2007, nous avons monté un spectacle ensemble. Jean avait, à l'époque, 93 ans.
On en reparle. Livrez-nous le texte. On en reparle après la pause.
Avec plaisir. Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour, par le foie, il sommeillait, le savetier, alors, en chantant, l'éveillait, et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fit venir le chanteur. Il lui dit « Or ça, Sir Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an, ma foi, monsieur !» Ce n'est point ma manière de compter de la sorte et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Eh bien, tantôt plus, tantôt moins, et sans cela, nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé de quelque nouveau saint charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au gain. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. »